VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 10h en temps universel. Le président gambien Yahya Jammeh a accusé dans son discours du Nouvel An la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de lui déclarer la guerre après la décision de la CEDEAO de placer des forces militaires en état d'alerte dans le cas où il refuserait de quitter le pouvoir à la fin de son mandat le 19 janvier. Jammeh, qui dit vouloir rester au pouvoir en dépit de sa défaite lors de l'élection présidentielle du 1er décembre, remportée par son rival Adama Darrow, a aussi promis de défendre la Gambie contre toute agression extérieure dans cette allocution divisée à la télévision publique. Le président sortant avait initialement reconnu sa défaite avant de la contester quelques jours plus tard. Les partis politiques en RDC sont parvenus samedi à un accord qui stipule que le président se retire après les élections qui doivent avoir lieu à la fin de 2017. Le parti au pouvoir avait initialement fait valoir que Joseph Kabila quitte son poste seulement après les élections fixées en 2018. Le nouvel accord met fin à des mois d'agitation sur les modalités du départ de M. Kabila du pouvoir. Le président congolais devait en principe quitter son poste le 19 décembre, mais l'élection présidentielle de novembre avait été retardée indéfiniment. En vertu de cet accord, le président est empêché de solliciter un troisième mandat. Les Nations Unies ont par ailleurs exhorté les forces de sécurité congolaises à faire preuve de retenue et à permettre aux manifestants de l'opposition de s'exprimer.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Tchad entame l'année 2017 sans être venu à bout des tensions sociales qui ont marqué l'année 2016 depuis 4 mois. Les fonctionnaires sont en grève à l'appel de leur syndicat pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire et aussi dénoncer les mesures d'austérité prises par les autorités, ce qui fait planer sur les élèves et étudiants du pays la menace d'une année blanche. Younous Mahadji, vice-président de l'Union des syndicats du Tchad.
Je suis convaincu que le 3, il n'y aura pas une école réellement ouverte parce que les enseignants, la grande partie des enseignants qui sont sous la direction de nos syndicats, je suis convaincu qu'ils ne viendront pas, surtout que le gouvernement vient de décider une loi encore liberticide. Du fait qu'elle a déjà été rejetée en 1996, elle est encore reprise en 2008. Et actuellement, c'est la troisième fois que le gouvernement l'introduit pour la remettre. Alors que chaque fois, nous, on la rejette parce qu'elle ne respecte pas les normes nationales et internationales.
Younous Mahadji, vice-président de l'Union des syndicats du Tchad, en direct que nous avons joint à N'Djamena. C'est aujourd'hui que débute à Paris le procès pour corruption de Théodorin Obiang Nguema, le fils du président équato-guinéen et lui-même vice-président de la Guinée équatoriale. C'est le premier jugement en rapport avec l'affaire des biens mal acquis déclenchée par les ONG Sherpa et Transparency International. Les précisions, Timothée de Nogmaï.
Il y a peu de chances que l'accusé se présente à la barre, mais on s'attend à ce qu'il plaide non coupable des chefs d'accusation de corruption, détournement de fonds publics et blanchiment d'argent. Il est reproché à Théodorin Obiang Nguema d'avoir accumulé en France et dans d'autres pays occidentaux hôtels particuliers, véhicules de luxe, œuvres d'art et vins fins, entre autres, un patrimoine valant plusieurs millions d'euros qu'il aurait acquis en détournant les fonds publics de son pays, accusation qu'il a toujours rejetée. Ce n'est que la première étape, a fait savoir Maître William Bourdon, président de l'association Sherpa et conseiller juridique de Transparency International. En septembre, la Guinée équatoriale avait saisi la Cour internationale de justice de la Haye pour demander la suspension des poursuites contre Théodorin Obiang Nguema, estimant que son immunité diplomatique avait été violée. Elle a obtenu la restitution d'un hôtel particulier de Paris, saisi dans le cadre de l'enquête, en affirmant qu'il fait partie du domaine de sa mission diplomatique. Toutefois, la Cour internationale de justice avait indiqué n'avoir aucun moyen de bloquer l'action judiciaire engagée en France.
Les autorités turques traquaient toujours dimanche l'assaillant qui a semé le chaos et la mort dans l'une des boîtes de nuit les plus huppées d'Istanbul, tuant 39 personnes, dont de nombreux étrangers qui fêtaient le nouvel an. L'attaque marque de manière sanglante l'entrée dans la nouvelle année pour la Turquie, secouée en 2016 par une tentative de coup d'État et une vague d'attentats meurtriers. Merci de nous avoir suivis, Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain rendez-vous dans 55 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.